Bon, pour moi, quand j'ai vu la question, et cette question qui disait qu'est-ce qui est le plus important, m'a posé problème. Parce que de mon point de vue, il n'y a pas quelque chose, il faudrait que je retrouve le texte exact de la question qui était qu'est-ce qui contribue le plus à la construction des usages? Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui, en règle générale, contribue le plus à la construction des usages. Je crois que la construction des usages, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la résultante d'un ensemble d'éléments dont chacun a son importance d'une façon différente selon les dispositifs auxquels on s'intéresse, qui s'organisent différemment, qui pèsent chaque élément pesant différemment selon le dispositif. Alors, qu'est-ce que j'entends par dispositif, peut-être première chose. Ce que j'entends par dispositif, c'est tout simplement un mini-système de formation. C'est-à-dire que si on prend un système général, on a toute une série d'éléments diversifiés, combinés de façon différente, s'adressant à des publics différents, etc. Quand moi je parle de dispositif, c'est pour parler d'un ensemble cohérent, composé d'un certain nombre d'éléments, on va y venir, qui constitue une offre de formation, qui constitue une offre qui s'adresse à des usagers qui eux-mêmes arrivent avec des logiques de demande et à l'interaction de ces logiques de l'offre et de ces logiques de demande s'inscrivent ce que j'appellerais les rapports d'usage. Donc rapports d'usage du dispositif. Mais ces rapports d'usage incluent l'offre, la demande, les usagers et ce qu'ils en font. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'interdépendance contextuelle, parce que tout ça se situe, bien entendu, dans un ensemble d'éléments sur lesquels que je vais préciser. Donc, voilà, en gros, l'ensemble des éléments qui, selon moi, constituent un dispositif de formation. Bien entendu, les flèches étant importante dans ce dispositif. Et il devrait y en avoir aussi, mais on ne peut pas les mettre partout, entre les différents éléments qui sont autour. Autour de quoi? Autour de ce que j'ai mis au milieu, parce qu'on dit toujours qu'il est au cœur du dispositif, ce qui reste encore à prouver, l'usager final, c'est-à-dire l'apprenant, pour lequel on peut parler de public visé, de public cible, etc. Mais qui n'est pas d'ailleurs le seul acteur. Alors, on va revenir sur chacun de ces éléments. Simplement ici, vous regardez les couleurs. Ce que j'ai mis en jaune, c'est le contexte institutionnel. Ce qui est en bleu, c'est ce que j'appellerais le contexte de la formation. On pourrait peut-être parler de contexte pédagogique, je ne suis pas très sûre. Ce qui est en violet, c'est les acteurs. Et ce qui est en vert, c'est les ressources médiatisées, technologies, instrumentation, etc. Voilà. Donc, de mon point de vue, c'est tout ça qui constitue le dispositif, c'est cet ensemble-là, et c'est les relations entre les différents éléments de cet ensemble. Et ce qui influe le plus sur les usages, c'est les relations et la cohérence ou l'absence de cohérence entre les différents éléments du dispositif. Ce n'est pas en soi un élément ou un autre, c'est les interrelations entre ces éléments. Alors, on va quand même parler de chacun des éléments. Si je parle des publics, alors les publics visés, bon, il y a eu un certain nombre d'études sur le sujet, mais on sait que leur statut professionnel ou leur statut par rapport à la situation d'apprentissage, est-ce qu'ils sont étudiants, est-ce qu'ils sont apprentis, est-ce qu'ils sont chômeurs, est-ce qu'ils sont en activité professionnelle, etc., va avoir une influence sur l'usage qu'ils vont faire de l'offre de formation. Leur niveau de formation antérieure, leur motivation, bien entendu, pourquoi ils se forment, dans quel but, avec quel objectif, leur rapport à la formation. Leur rapport à la formation au sens très large, vous pouvez le traduire par est-ce qu'ils aiment apprendre ou est-ce qu'ils ont une expérience antérieure négative de la formation, et est-ce qu'ils attendent autre chose d'une formation qu'ils prennent à l'âge où ils sont que ce qu'ils ont eu précédemment, par exemple. Mais aussi, puisqu'on est dans des formations médiatisées, bien entendu, leur rapport aux technologies. Bon, je parle des acteurs finaux, donc les apprenants. Je parlerai tout à l'heure des autres acteurs qui sont les acteurs institutionnels, enseignants. Mais si je considère le contexte institutionnel, bon, il y a une part de géographique avec le lieu d'implantation qui va jouer un rôle, avec le statut juridique et la tutelle. Selon qu'on observe ce qui se passe dans une université qui dépend du ministère des Enseignements supérieurs, dans un CFPPA qui dépend du ministère de l'Agriculture, dans un APP qui n'a pas en soi de statut juridique d'ailleurs, etc., il va se passer des choses différentes qui vont fabriquer des offres différentes pour des publics différents. Et à partir de ce moment-là, ces offres seront construites différemment, les publics auront des demandes différentes, et le rapport d'usage qui vient à l'interaction, à l'intersection de l'offre et de la demande sera différent. Toujours en ce qui concerne les éléments institutionnels, il y a les principes administratifs. Bon, modalité d'information, certes, c'est un peu secondaire, mais de recrutement. Est-ce qu'il y a sélection à l'entrée ou est-ce qu'il n'y a pas sélection à l'entrée? Si je prends un dispositif de formation à distance, où il n'y a pas sélection à l'entrée, il y a obligatoirement des prérequis qui ne sont pas forcément acquis par les étudiants qui s'inscrivent. Pour être plus concrète, au CNAM, par exemple, certains étudiants, les étudiants en général, qu'on appelle auditeurs, peuvent suivre des formations soit en présentiel, soit à distance. Un certain nombre d'entre eux, pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles. Certains étudiants prennent certaines formations en présentiel et d'autres à distance. Mais ils n'ont pas, par leur expérience de formation antérieure, acquis l'autonomie d'apprentissage qu'exigent les formations à distance. Et les formations présentielles ne la leur donnent pas. Donc, il va y avoir rupture, hiatus, entre les deux types de formations qui suivent, et ils ne vont pas forcément s'y adapter aisément. Donc, on peut s'interroger pour savoir dans quelle mesure la formation à distance n'implique pas une relative orientation à l'entrée, une orientation à l'entrée relativement plus importante que dans les formations traditionnelles dont on sait que les apprenants y ont été accoutumés depuis leur enfance, même si ça s'est mal passé pendant l'enfance. Il y a aussi des problèmes de rythme du cursus et de périodicité. Je veux dire par là qu'une des difficultés, par exemple, que rencontre la Téléuniversité du Québec, qui veut faire travailler des étudiants de manière collaborative, c'est que, en théorie, on peut s'inscrire à n'importe quel moment. Donc, les étudiants ne vont pas être au même moment de leur apprentissage pour travailler ensemble. Donc, si on ne triche pas un peu avec ces règles, et c'est ce qu'ils font dans les cas où ils veulent vraiment faire fonctionner un travail collaboratif, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on démarre le cours quand il y a 15 étudiants inscrits, par exemple. Mais on attend qu'il y ait 15 étudiants inscrits pour démarrer le cours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément le démarrer au moment où on voudrait. Bon. Donc, voilà le problème, justement. Un exemple de relation entre la logique de la demande des étudiants qui serait « on veut pouvoir s'inscrire et démarrer n'importe quand » et la logique de l'offre qui est « oui, mais si on veut que vous fassiez du travail collaboratif, il faut bien sûr que qu'on crée des cohortes. » Les lieux de la formation sont importants. Alors on parle, moi ça m'ennuie toujours de parler de formation ouverte et à distance. Et j'en parle toujours au pluriel, je dis toujours les formations ouvertes et à distance, parce qu'il me semble que c'est tellement varié, divers, hétérogène ce qu'on met sous ce terme, qu'on peut difficilement en parler au singulier. Et qu'au singulier, c'est plutôt un terme promotionnel qu'un terme scientifique. Bon, donc, les formations ouvertes et à distance, il y a les formations à distance qui se passent complètement à distance d'un lieu de formation, sur le lieu de travail, à domicile. Il y a tout ce qui est formation hybride ou mixte, selon la manière dont on les appelle, dans les universités. Du présentiel enrichi au présentiel appauvri, en passant les formations sur mesure. On ne sait jamais à la mesure de qui, d'ailleurs, mais enfin, peu importe. On est là dans des situations d'apprentissage totalement différentes. Si je prends d'un côté un étudiant du CNED qui habite à 100 km d'une université, et si je prends un étudiant d'une université qui suit certaines de ses enseignements en formation mixte, alternant séances en présentiel et séances en auto-formation sur site dans un centre de ressources, je n'ai pas affaire au même public, je n'ai pas affaire à la même demande et l'offre n'est pas identique. Donc, de mon point de vue encore, le rapport d'usage sera forcément différent. La construction de l'usage, elle se construira sur la base de ces différences-là aussi, mais en même temps qu'elle se sera construite en fonction du rythme des formations et en même temps qu'elle se sera construite sur un certain nombre d'autres éléments dont on va parler. Autre chose également importante par rapport à l'usage réel que l'étudiant va faire d'une formation, l'apprenant, ça va être son coût. Parce qu'une formation, alors il y a le coût pour l'institution, c'est une chose, mais il y a le coût pour l'étudiant. L'étudiant qui va s'inscrire à une formation qui coûte 3000 euros n'aura pas le même rapport d'usage à cette formation que celui qui va s'inscrire à une formation qui coûte entre 0 et 100 euros. On abandonne plus facilement une formation du CNED qui n'est pas très chère qu'une formation extrêmement chère, parce qu'on a payé cher. et que on essaie quand même que de ne pas avoir jeté de l'argent par les fenêtres. Mais en même temps, par rapport à une formation extrêmement chère, on aura des exigences de consommateurs certainement plus fortes que par rapport à une formation dont le coût est moindre. Les modalités d'évaluation du dispositif et la manière dont cette évaluation du dispositif, on en a parlé cet après-midi, rejaillit sur les modifications qu'on peut ou qu'on ne peut pas y introduire, sont aussi quelque chose qui va faire fonctionner la construction des usages, puisque ces usages, ils vont évoluer au cours du temps, si le dispositif lui-même évolue selon l'évaluation qui en a été faite, ou si le dispositif reste figé au cours des années. J'en arrive, parce que je crois qu'il faut que j'accélère, au contenu de la formation. Donc, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'en informatique, il y a des étudiants qui ne servent pas forcément très bien des outils informatiques, mais en même temps, ils sont plus nombreux en informatique à savoir s'en servir qu'en lettre moderne, en comptabilité. La relation qu'il y a entre le contenu de la formation et l'outil qui sert à cette formation va jouer un rôle important dans la construction du rapport d'usage. L'objectif de la formation, selon qu'on est là parce qu'on veut un diplôme dont on a absolument besoin pour garder son emploi ou pour en trouver un, ou pour apprendre des choses parce que ça nous fait plaisir, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences. Les principes pédagogiques qui vont être appliqués dans les systèmes, les enseignements proposés, selon que l'enseignement va être de type constructiviste, comme les études de cas dont nous parlait Hélène, ou de type transmissif, comme combien de cours en ligne avons-nous vu qui sont totalement linéaires et que, bien entendu, les étudiants n'ont d'autre solution que d'imprimer pour aller étudier dans le métro, dans le bus, je dis pas en voiture parce qu'en général il vaut mieux pas lire en conduisant, mais n'importe où, même sans emporter leur ordinateur et sans avoir de connexion internet. Et puis aussi, est-ce qu'on attend de l'étudiant qu'il ait cette autonomie comme un prérequis, qu'il arrive autonome, ou est-ce qu'on se donne les moyens, à travers le dispositif mis en place, de susciter, de créer, de l'aider à construire cette autonomie? Et bien souvent, dans les dispositifs de formation en ligne, on attend que cette autonomie soit préalablement acquise. On ne se donne pas les moyens de la construire. Alors, je ne parle pas des dispositifs expérimentaux très, très, très travaillés, pour lesquels il y a beaucoup de moyens, mais je parle d'un certain nombre de dispositifs classiques, courants, je dirais, entre guillemets, l'enseignement à distance traditionnel mis en ligne. Et je ne citerai pas d'institutions, parce qu'on en trouve aussi bien dans les centres de téléenseignement universitaire que dans des organismes comme le CNED, à côté de dispositifs totalement innovants. Et puis, les modalités d'évaluation des personnes et des acquis, continue et finale. Dans un de ses articles, par exemple, François Mangenot explique qu'un facteur de réussite est le fait et la participation aux activités proposées. Et il argumente sur le fait que la participation aux activités proposées est liée à la reconnaissance de cette participation dans la validation finale. Or, bien souvent, on demande aux étudiants, au fur et à mesure du cursus à distance, d'aller sur le forum, d'envoyer des exercices, de faire des choses, de travailler en collaboration. Mais à la fin de l'année, surtout à l'université, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on oublie tout ça, on les met dans une salle d'examen et ils doivent passer l'examen. Et on ne sait plus ce qu'ils ont fait le reste du temps. Bah, la mobilisation pour participer aux activités est nettement moindre dans le deuxième cas. Bon, deuxième catégorie d'acteurs, et là je vais essayer d'aller très vite, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est les enseignants. Les enseignants avec leur statut, avec leur mode d'implication, de rémunération, la répartition des rôles. Est-ce que, ne serait-ce qu'une chose, est-ce que c'est le concepteur de la formation qui joue également le rôle de tuteur, ce qui se passe souvent dans des actions expérimentales, ou est-ce qu'on est dans des systèmes industrialisés de formation à distance, comme au CNED ou comme à la Téléuniversité du Québec, où il y a d'un côté le concepteur, et puis où le concepteur disparaît au moment où l'étudiant est en situation d'apprentissage, et où c'est un tuteur qui prend le relais et qui n'a pas le statut de l'enseignant. Le tuteur étant souvent, dans ce cas-là, utilisé pour faire des économies en termes de coûts salariaux et de temps de personnel hautement qualifié. Il est souvent payé, je dirais entre guillemets, avec un lance-pierre, ce qui n'implique pas forcément de sa part un très grand engagement dans son activité. Et si les étudiants ne posent pas de questions, eh ben c'est pas lui qui va aller les chercher pour qu'ils en posent, parce que ça lui prendra plus de temps. Bon, je caricature en disant ça, mais il faut que j'aille vite, alors, quand on va vite, on caricature. Bien, il y aurait des tas d'autres choses à dire, mais si vous me posez des questions, j'y reviendrai peut-être. Et puis, enfin, mais je les ai mises en dernier, c'est les ressources médiatisées. Et ces ressources médiatisées à trois niveaux. Ressources médiatisées pour la transmission des connaissances, pour la documentation, vous nous en avez parlé tout à l'heure, et pour la communication, on vient d'en parler, les échanges à distance. Alors, pour la transmission des connaissances, en tout cas, il y a une remarque récurrente, c'est que quand il y a un cours en ligne, ce cours est quasiment toujours trop chargé. C'est-à-dire que l'enseignant qui met son cours en ligne est tellement conscient, en arrière-plan, bien sûr, pas explicitement, mais est tellement conscient que ses collègues vont pouvoir le voir et qu'il a été choisi comme expert, donc il faut qu'il prouve qu'il l'est, qu'il va écrire son cours pour être reconnu par ses collègues et non pas pour être compris par les étudiants. Ce qui fait que chaque fois que je me suis retrouvée à interviewer des étudiants à distance, ils me disaient des choses du genre « Ah oui, le cours, ah oui, c'est du sérieux, hein, c'est du solide. Ah oui, c'est bien, c'est complet. C'est... » Et puis, dès qu'on allait un petit peu plus loin, c'était « Oui, mais j'y arrive pas, c'est trop gros, je sais pas ce que je dois apprendre là-dedans. Je suis supposée y passer 40 heures, j'en ai déjà passé 60 et j'ai pas fini. » Et il y a souvent rien pour les guider à travers cette masse d'informations qui leur passe bien souvent au-dessus de la tête. Bon, et ça, c'est un des points que je trouve extrêmement important en ce qui concerne, en tout cas, les ressources médiatisées, parce que je pense que ça doit être un facteur explicatif, pas de tous, loin de là, parce que tout le reste hein, joue un rôle, mais un facteur explicatif d'un certain nombre d'abandons par lassitude pour des enseignants qui sont inscrits, des étudiants inscrits à des cours à distance. On constate de façon récurrente que les étudiants ne vont pas sur les forums autant qu'on s'y attendrait, ne participent pas autant qu'on s'y attendrait aux travaux collaboratifs. La question qu'on ne se pose pas toujours, c'est qu'est-ce qui va les faire venir ? Pourquoi viendraient-ils ? Bon, et il me semble, alors on parle de réticence, de résistance, etc. Mais tout simplement, quel intérêt ont-ils à y aller ? Alors, on crée des obligations. Dans une formation au CEDUSI que j'ai étudiée récemment, le tuteur, un peu débutant, croyait qu'il allait suffire de dire « je suis à votre disposition » pour que les étudiants se précipitent sur le forum, puis il venait pas. Alors du coup, il a imposé que les étudiants lui envoient toutes les semaines un bilan de ce qu'ils avaient fait pendant la semaine sur le forum. Alors les étudiants qui s'étaient inscrits en auto-formation, ben, ils se sont mis à râler en disant « on s'est inscrit en auto-formation, c'est pas pour avoir ce genre de contraintes ». Bon. Donc je vais m'arrêter là, mais simplement pour dire que de mon point de vue, l'ensemble de ces éléments constitue un dispositif de formation et que c'est l'ensemble, la combinatoire de ce dispositif de formation qui construit un usage. Et que si on déplace un des éléments, les mêmes ressources médiatisées destinées à être utilisées à domicile ne vont pas susciter les mêmes usages que ces ressources médiatisées destinées à être utilisées avec un formateur ou un animateur ou un tuteur derrière soi sur site dans un centre de ressources universitaire, par exemple. Et si tout ça n'a rien coûté, ça n'aura pas les mêmes conséquences en termes d'usage que si tout ça est extrêmement cher. Et si les étudiants découvrent les technologies, ça n'aura pas les mêmes conséquences en termes d'usage que si c'est des gens qui sont habitués de longue date, etc., etc. Je m'arrête.